La revue de presse internationale, bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Et Camille, vous êtes en direct de votre cuisine, c'est une première mondiale, je crois que c'est la première fois qu'il y a une revue de presse internationale depuis la cuisine de Camille Magnard. Et vous pouvez suivre depuis cette pièce l'enfermement progressif du monde.
Oui, c'est ça, un monde qui se barricade, chacun chez soi, voilà le résumé qu'en fait Der Spiegel en Allemagne, nous annonçant parmi les dernières nouvelles de la nuit qu'un nouveau continent est en train de se replier sur lui-même, l'Amérique latine. Hier soir, les présidents du Pérou, de l'Argentine, du Panama et du Honduras ont décrété la fermeture de leurs frontières nationales pour ralentir, faut-il le préciser, la propagation du coronavirus. Et pourtant, ça ne sert plus à rien d'ériger à nouveau des frontières en Europe et ailleurs, professe Steven Erlanger dans le New York Times, puisque de toute façon, nous dit-il, le mal est déjà parmi nous, le verre est déjà dans le fruit. Et en parlant de fruits, j'apprends cette fois dans le New York Post que ça y est, grande étape franchie, la grosse pomme et son maire Bill de Blasio viennent d'ordonner la fermeture obligatoire au public des bars et des restaurants de New York. Il leur est désormais donné pour consigne de ne plus faire que de la vente à emporter ou bien en livraison. Et c'est tout d'un coup la vie nocturne new-yorkaise qui s'éteint face au coronavirus. Des rues qui se vident et des vies comme mise en suspens, voilà comment The Washington Post décrit, lui, ce triste visage qu'offre notre planète en ce lundi matin. Le quotidien de la capitale américaine illustre cet état des lieux avec un portfolio de l'absence qui nous emmène de Miami à Milan, en passant par Séoul, Austin, Texas et Yokohama.
Une rue désertée, vie suspendue, qu'on se le dise, la nouvelle frontière du Covid-19 n'est déjà plus administrative, elle est sociale.
Oui, le social distancing, la distanciation sociale comme arme de lutte contre la pandémie, voilà un sujet qui fait débat dans les journaux à travers la planète. S'isoler, refuser tout contact physique et donc renoncer à l'essentiel de sa vie sociale pour faire barrière au virus, voilà ce que préconisent nos gouvernements pour la plupart. Et dans un article du Guardian daté d'hier, on constate que chacun a sa manière de faire face à l'impératif du confinement. Le quotidien britannique a interrogé des New Yorkais, là encore plutôt jeunes et plutôt habitués à sortir entre amis. Et entre ceux qui prévoient de ranger leur appartement du sol au plafond ces prochains jours, ceux qui ont fait des stocks de livres à lire, de matériel de peinture ou même de bouteilles de vin à boire dans des soirées dégustation collective à distance, on ne se laisse clairement pas abattre. Enfin, tout de même, cette voix dissonante entendue sur un trottoir du Queens, d'une jeune femme qui nous dit tout simplement que s'il faut juste rester enfermé chez soi, à avoir peur de tout et à suspecter tout le monde, à commencer par ses voisins, alors, eh bien alors, ce n'est pas une vie. Pire même, selon Nicole Carlis du site d'opinion américain Salon, les mesures de distanciation sociale, si elles sont mal menées et comprises dans le seul sens d'un repli sur soi strict, elles peuvent nous faire courir de plus grands risques encore face à la pandémie, car ces règles du confinement nous rendent vulnérables. La journaliste américaine fait un parallèle avec l'autre grand traumatisme collectif du 11 septembre 2001. Elle se rappelle à quel point cette tragédie avait généré des actes spontanés d'altruisme, d'entraide, de solidarité des intéressés qui avaient alors permis à la société américaine de faire corps, de se relever. Même chose après l'ouragan Katrina en Louisiane en 2005. Aujourd'hui, face à la pandémie, on nous demande de mettre de la distance avec l'autre pour le protéger, mais surtout pour nous protéger, avec un arrière-goût d'individualisme survivaliste. On pense à notre propre survie avant celle des autres.
C'est humain, mais c'est dangereux, avec le risque de voir l'égoïsme l'emporter au niveau individuel comme national, Camille.
Et oui, et s'il est encore besoin de vous en convaincre, alors lisez cette enquête publiée hier par l'édition dominicale de Die Welt en Allemagne, où l'on apprend que Donald Trump a tenté, moyennant énormément d'argent, d'acheter à un laboratoire médical germano-américain l'exclusivité d'un vaccin anti-Covid-19 qui est encore en phase de test. Le président américain était donc prêt à priver le monde d'un remède pour le réserver à sa seule population. La Maison-Blanche s'en est défendue hier soir, mais le gouvernement allemand, lui, a confirmé les infos de Die Welt. Il a dit également que le gouvernement allemand a dit qu'il avait tout fait pour que le labo en question ne cède pas aux sommes d'argent promises par l'administration Trump. Tout de même, le capitalisme a ses limites, s'est indigné le spécialiste santé du SPD social-démocrate. Voilà qui mérite d'être rappelé en ces temps d'absolue mise en concurrence.
Merci beaucoup Camille Magnard. On retrouve votre revue de presse internationale sur le site de France Culture, franceculture.fr.